Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur un sujet qui nous entoure tous les jours, mais auquel on ne pense pas toujours en profondeur. Les fleurs. On en offre, on décore nos maisons avec, elles rythment nos saisons, nos joies, nos peines aussi. Mais qu'est-ce qu'elles disent vraiment sur nous? Sur notre histoire, notre culture? Et pour explorer ça, on a une source un peu particulière, assez fascinante, c'est le bulletin numéro 87 du Cartoclub Aveyronnais. Il est entièrement dédié au thème des fleurs et des hommes. Et c'est une vraie pépite. Ça nous balade des cartes postales anciennes aux botanistes passionnés de la région et même jusqu'aux artisans fleuristes. Notre idée, c'est de voir, à travers ce bulletin, comment notre regard sur les fleurs a évolué et ce que ça nous apprend. Bon, alors, on y va? Voyons ce que ce bulletin nous réserve. Alors, d'abord, il nous plonge dans l'ambiance du début du XXe siècle avec les cartes postales. Et là, il y a un phénomène qui explose, le fameux langage des fleurs.
Ah oui, le langage des fleurs, c'était bien plus qu'une simple mode passagère en fait. Il faut imaginer le contexte. L'école devient obligatoire, l'alphabétisation progresse et la carte postale, elle, devient le moyen de communication écrit numéro un. C'est rapide, c'est pas cher, c'est nouveau.
D'accord.
Et dans ce contexte-là, ce langage des fleurs, ça offrait un code visuel, sentimental, que tout le monde pouvait partager et comprendre. Chaque fleur avait son message, quoi.
Ah oui, des exemples peut-être. Le bulletin en donne.
Oui, plein. La glycine, par exemple, c'était l'attachement, le bonheur partagé. Le myosotis, le fameux « ne m'oubliez pas », c'était le souvenir amoureux. Le lierre, lui, symbolisait l'amitié éternelle. Et la capucine, le feu de l'amour.
C'était une sorte de d'emoji avant l'heure, en quelque sorte. Un kit émotionnel prêt à l'emploi.
C'est un peu ça, oui.
Exactement.
Exactement. Et les éditeurs de cartes postales, ils se sont jetés dessus, évidemment. Le bulletin cite l'éditeur Bergeret, à Nancy, une véritable usine. Il pouvait sortir, tenez-vous bien, jusqu'à 300 000 cartes par jour en 1904. C'est énorme.
Ah oui, quand même.
Et ces cartes, elles étaient souvent très soignées. Des dessins en couleur, parfois avec des broderies faites à la main à domicile, des petits collages, des perles. Il y avait même des cartes pochettes brodées. C'était de vrais petits objets précieux. C'était toute une industrie du sentiment où la fleur portait vraiment le message principal.
Et parfois même de la pub, j'ai vu.
Oui, certaines intégraient de la publicité, comme pour le journal L'Éclair, ont mélangé commerce et tendresse, quoi.
Mais ce langage si codifié, si standardisé, est-ce que ça ne rendait pas les sentiments un peu impersonnels, un peu fades?
C'est une excellente question. Effectivement, il y avait ce risque de standardisation. Mais il faut peut-être voir ça autrement. Pour beaucoup de gens, c'était sans doute la première fois qu'ils pouvaient exprimer par écrit des nuances affectives, même si c'était via un code.
Une première étape alors.
Voilà. Et le succès incroyable de ces cartes montre bien que ça répondait à un vrai besoin. Un besoin de communiquer, de se connecter, dans une société qui changeait très vite. C'était facile, c'était visuel, et ça créait une sorte de vocabulaire émotionnel commun.
Et ce vocabulaire, il servait pour toutes les occasions, j'imagine, pas seulement les déclarations d'amour.
Ah non, loin de là. Le bulletin est très riche en exemples. Pour la bonne année, hop, du hou et du gui porte-bonheur sur la carte. Le 1er avril, on voyait des poissons d'avril nager au milieu des fleurs. À Pâques, c'était le renouveau. Fleurs de printemps, agneaux, œufs, poussins.
Le 1er mai, bien sûr.
Le muguet, incontournable, à la fois porte-bonheur et, déjà, symbole de la fête du travail. Et puis, la fête des mères, avec les roses, évidemment. Et même la Sainte-Catherine, le 25 novembre, vous savez, pour les Catherinettes.
Les jeunes femmes célibataires de 25 ans.
Exactement. Eh bien, on leur envoyait des cartes avec des fleurs et des chapeaux spécifiques. C'était très ancré dans le calendrier.
Donc, ça dépassait largement les grandes fêtes annuelles.
Oui. Les fleurs étaient là pour les anniversaires, les fêtes personnelles, ou même juste pour envoyer un petit bonjour, un mot d'amitié, de tendresse ou de souvenir. Et puis, il y avait cette fonction de lien quand on était loin.
Comment ça?
Ben, les voyageurs. Ou les militaires en garnison, par exemple. Ils envoyaient des cartes fleuries, souvent avec une petite photo de l'endroit où ils se trouvaient incrustés dans le décor floral. On pouvait lire « De Rhodes, je vous envoie ces fleurs ». La fleur, elle servait de pont affectif. Elle disait « Je pense à toi » et partageait un peu du lieu où l'on était.
C'est une image assez douce, finalement, qui contraste pas mal avec l'utilisation des fleurs pendant la Première Guerre mondiale, que le bulletin aborde aussi.
Le contraste, et oui, il est saisissant. Pendant la Grande Guerre, la fleur change de rôle. Elle est mobilisée, elle devient un symbole patriotique. Les textes sur les cartes ne sont plus les mêmes.
Par exemple?
On trouve des légendes comme « Nos baisers chanteront quand les roses de France s'ouvriront largement en signe d'espérance » ou encore « Ce sont des fleurs du jardin de la France, emblème de la suprême espérance ». La fleur, là, elle incarne l'espoir de la victoire, la beauté du pays qu'il faut défendre. C'est un lien idéalisé entre le soldat au front et sa famille à l'arrière.
On l'imagine bien, le besoin de ce genre de symbole dans une période aussi terrible.
Bien sûr. Mais attention, ce n'était pas juste une effusion sentimentale innocente. Ça relevait aussi d'une forme de propagande douce pour maintenir le moral des troupes et de l'arrière.
Et c'était contrôlé.
Tout à fait. Cette correspondance, même fleurie, même sentimentale, elle était surveillée. Le bulletin mentionne un arrêté d'avril 1915 qui instaurait la censure préalable. Les cartes qui avaient un lien avec la guerre devaient avoir le cachet « Visé Paris ». Donc, même l'expression des sentiments par les fleurs était sous contrôle de l'État.
C'est fou de voir comment un objet aussi simple qu'une fleur sur une carte peut porter autant de significations différentes selon l'époque, selon le contexte. Mais le bulletin, ensuite, nous emmène ailleurs. Loin de ces symboles populaires, vers une approche beaucoup plus scientifique des fleurs. Et l'Aveyron semble avoir été une terre fertile pour ça.
Ah oui, absolument. C'est l'autre grand pan exploré dans ce document, le patrimoine botanique incroyable de la région et surtout les personnalités qui s'y sont consacrées. Et là, il y a un nom incontournable, l'abbé Hippolyte Coste. On le surnommait le curé des fleurs. Il a vécu entre 1858 et 1924 et son travail est colossal.
Colossal, c'est-à-dire ?
Ben, son œuvre principale, c'est la flore descriptive et illustrée de la France. Ça reste encore aujourd'hui une référence absolue pour tous les botanistes francophones. Et son herbier personnel, il est conservé à Montpellier. C'est juste monumental. On parle de 50 000, peut-être 60 000 planches de spécimens qu'il a collectées, séchées, identifiées. C'est le travail d'une vie, une passion dévorante.
Impressionnant.
Oui. D'ailleurs, il y a un espace botanique qui lui est dédié à Saint-Paul-des-Fonds, le village où il était curé. Ça montre son importance.
Il n'était pas tout seul dans cette aventure botanique. Le bulletin suggère une sorte de tradition locale.
Oui, c'est ça qui est frappant. Coste, il s'inscrit dans une lignée. Avant lui, il y avait déjà eu des pionniers, comme le docteur Antoine Bras. Et Coste lui-même a beaucoup collaboré avec d'autres passionnés. Il a exploré les Causses, avec l'abbé Joseph Soulier, par exemple. Et il y a eu d'autres figures marquantes, comme Hippolyte Piech, qui a découvert un chardon rare qui porte maintenant son nom. Ou encore le frère Saltel, qui a étudié la flore très spécifique d'un site minier près de Firmy.
Une fleur adaptée à la pollution.
Exactement. Il a trouvé des plantes capables de pousser sur ces sols chargés en métaux lourds, comme la Nokea firmensis. C'est fascinant.
Et la petite surprise du bulletin, c'est d'y trouver aussi Jean-Henri Fabre, le grand entomologiste, mondialement connu pour ses études sur les insectes. Il était aussi un fou de fleurs.
Eh oui, c'est la surprise du chef, si on peut dire. On pense Fabre, on pense insectes, mais c'était un naturaliste complet, un vrai botaniste passionné lui aussi. Il a créé un herbier important, il a beaucoup herborisé en Corse, en Provence.
Il a même tenté une aventure industrielle avec une plante, non ?
Oui, avec la garance, une plante qu'on utilisait pour la teinture rouge. Malheureusement, ça n'a pas marché pour lui sur le plan commercial. Mais sa présence dans ce bulletin nous rappelle que ses passions naturalistes, pour les plantes, pour les insectes, elles étaient souvent très liées chez ces grands observateurs de la nature.
Ce qui est étonnant, quand même, c'est cette concentration de botanistes passionnés dans une même région, l'Aveyron. Comment on peut l'expliquer ?
Alors là, je pense que le lien avec le territoire est très clair. L'Aveyron a une diversité de paysages, de milieux naturels qui est assez exceptionnelle en France. Vous avez les Causses, ces grands plateaux calcaires, secs.
Oui.
Vous avez l'Aubrac, avec ses montagnes d'origine volcanique beaucoup plus humides. Vous avez des vallées très encaissées. Toute cette variété de ce qu'on appelle les biotopes, les environnements écologiques, eh bien ça a favorisé une flore extrêmement riche et diversifiée.
Et ça attire les curieux, forcément.
Forcément, hein. Ça a attiré et ça a stimulé ces observateurs attentifs. Et ce qui est bien, c'est que cette tradition, elle continue. Le bulletin cite Christian Bernard, un botaniste contemporain très reconnu, qui travaille toujours sur la flore de la région. Ça prouve que cette curiosité est toujours bien vivante.
Et cette richesse de la flore locale, on la retrouve sur les cartes postales plus récentes, mais d'une manière complètement différente des cartes du début du siècle, non ?
Ah oui, tout à fait. Les éditeurs modernes qui sont cités de Bézieux à Papou, ils ne sont plus du tout dans le langage symbolique de la Belle Époque. Leur approche, elle est photographique et elle est naturaliste. Ils montrent les fleurs in situ, c'est-à-dire dans leur milieu naturel.
C'est plus documentaire, en fait.
C'est ça, les cartes mettent en valeur la beauté spécifique de la flore des Causses ou de l'Aubrac. On va voir la grande gentiane jaune, les orchidées sauvages comme le frismouche ou l'orchisbouc, la petite tulipe sauvage de l'Aubrac, si discrète, ou le magnifique lys martagon.
On est passé du symbole à la célébration du patrimoine naturel local.
Exactement. Il y a même des séries de cartes qui sont consacrées aux fleurs protégées. Ça reflète bien notre sensibilité d'aujourd'hui, l'intérêt croissant pour la biodiversité, pour l'écologie. Et c'est sans doute aussi un argument pour le tourisme vert. Montrer la beauté naturelle unique de l'Aveyron pour attirer les gens qui aiment la nature. La carte postale devient une sorte de vitrine écologique.
Mais les fleurs, on ne fait pas que les regarder, les symboliser ou les étudier. Le bulletin nous rappelle aussi qu'elles ont plein d'usages pratiques, parfois un peu oubliés aujourd'hui.
Aujourd'hui, qu'on utilisait le réséda ou le genêt des teinturiers pour faire de la teinture jaune, ou la campanule pour faire de l'encre bleue.
Ou la saponaire pour faire du savon.
Voilà, comme son nom l'indique, elle contient de la saponine dans ses racines, ça mousse, ça lave, c'était le savon naturel d'autrefois.
Et il y a aussi des usages plus industriels ou gastronomiques qui perdurent.
Bien sûr, l'exemple le plus emblématique en Aveyron, c'est sur l'Audrac, avec la récolte traditionnelle de la jonquille et du narcisse sauvage. Ces fleurs sont ramassées, puis transformées directement sur place en ce qu'on appelle la concrète. C'est une sorte de pâte cireuse très très parfumée.
Et ensuite ?
Ensuite, cette concrète est retraitée pour obtenir l'absolu, une essence liquide encore plus concentrée. Et ça, c'est très recherché par les grands parfumeurs de Grasse pour créer leur parfum. C'est un savoir-faire unique.
Et côté boisson, on pense à quoi ?
Impossible de ne pas parler de la grande ancienne jaune. Mais attention, ce ne sont pas les fleurs qu'on utilise, ce sont les rhizomes, les grosses tiges souterraines. On les récolte pour fabriquer des apéritifs amers très connus, comme la suze, la vaise. Et puis il y a le fameux thé d'Aubrac, bien sûr. Cette infusion digestive faite avec le calament à grandes fleurs.
J'ai aussi vu que les fleurs s'invitent même dans la haute cuisine, avec l'exemple du chef Michel Brasse et son plat le gargouillou, qui utilisent de la bourrache, de la capucine, et puis des usages plus simples comme la confiture de pissenlit, et bien sûr toute la pharmacopée populaire.
Oui, l'arnica pour les coups, l'ortie, le millepertuis. Le bulletin en cite quelques-unes, mais il rappelle aussi, avec prudence, comme le fait l'éditeur Debazieux sur ses cartes, que l'automédication, ça peut être dangereux. Mais tout ça montre bien à quel point les plantes, et les fleurs en particulier, ont été et restent des ressources essentielles pour l'homme.
Et en parallèle de tous ces usages, de cette science, le bulletin met aussi en avant une artiste qui a vraiment magnifié la fleur dans ses peintures, Katharina Klein.
Ah, Katharina Klein, oui. C'est une figure très intéressante. Elle est née en Prusse en 1861. Elle s'est spécialisée dans la peinture de fleurs avec une précision, une délicatesse assez incroyable. Elle travaillait surtout à l'aquarelle et à la gouache.
Son style est très réaliste, c'est ça ?
Hyper réaliste, mais avec une grande sensibilité, une élégance folle. Elle arrive à capter la texture, la fragilité d'un pétale de rose, d'une pensée. C'est vraiment très beau.
Et ce qui est particulier, c'est que ses œuvres ont été énormément diffusées, grâce aux cartes postales, justement.
Exactement. Les grands éditeurs de cartes en Europe, aux États-Unis, ils reproduisaient ces peintures en très grand nombre, souvent avec un procédé qui s'appelle la chromolithographie. C'était une technique d'impression en couleur qui était très populaire à l'époque. Du coup, ces fleurs ont fait le tour du monde.
Elle a même fait des alphabets floraux, j'ai lu.
Oui. Une série d'alphabets où chaque lettre est une magnifique composition de fleurs. Son succès est intéressant parce qu'il montre comment un art, qui est quand même assez académique dans sa technique, a pu toucher un public immense, très populaire, grâce à ses nouveaux supports de communication. Elle est vraiment à la croisée de l'art, de l'illustration botanique et de la production de masse. C'est assez unique.
De l'art, on passe à l'artisanat. Le bulletin nous fait rencontrer ceux qui vivent de la fleur au quotidien, les fleuristes. Et ils mettent un coup de projecteur sur une maison très connue à Rodez, la maison Beck.
Oui, et l'interview de Jean-Louis et Christos Beck est passionnante, parce qu'elle raconte bien l'évolution de ce métier. D'ailleurs, le bulletin rappelle que les premiers fleuristes, à Rodez, au 19e siècle, début 20e, ils faisaient souvent plein de choses en même temps. Ils étaient pépiniéristes, vendaient des graines, des plantes.
Horticulteurs.
Voilà. La vente de fleurs coupées, ce n'était qu'une partie de leur activité. La maison Beck, elle, incarne vraiment la spécialisation dans la fleur coupée. et aussi la transmission d'un savoir-faire familial. Elle a été fondée en 1958 par Jean Beck, le père de Jean-Louis, mais elle a repris une boutique qui existait déjà depuis 1924. C'est une longue histoire.
Et qu'est-ce qui ressort de leurs témoignages sur le métier aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour eux?
Plusieurs choses très fortes. D'abord, une exigence absolue sur la qualité, la fraîcheur. Jean-Louis Beck raconte qu'il cultivait lui-même ses glaïeuls et qu'ils n'ont jamais voulu de chambre froide dans la boutique. Il préférait acheter moins, mais plus souvent, pour avoir toujours des fleurs ultra fraîches.
Ça, c'est un parti pris fort.
Oui. Ensuite, il y a les grands moments qui rythment l'année du fleuriste. Les périodes de folie pour la fête des mères ou la Saint-Valentin. Et puis la Toussaint, qui est très importante pour eux, où ils perpétuent une tradition locale, les œillets piqués dans la mousse. C'est un travail très particulier. Noël aussi, avec les hélébores, les roses de Noël.
Il parle aussi de la nécessité de s'adapter, j'imagine.
Ah oui, constamment. Que ce soit pour les mariages, les deuils ou même les événements officiels. Il y a une anecdote amusante, ou plutôt stressante pour eux, lors de la visite du général de Gaulle à Rodez en 1961. La sécurité, qui n'avait pas de détecteur à l'époque, leur a demandé de démonter entièrement des dizaines de corbeilles de fleurs pour vérifier qu'il n'y avait pas de bombes cachées, puis de tout remonter.
Incroyable !
Ça montre les imprévus du métier. Mais au-delà de ça, il parle surtout des défis plus actuels, plus structurels.
C'est-à-dire ?
Le sourcing, par exemple. Ou trouver les fleurs. C'est crucial, trouver des bons producteurs, si possible locaux ou régionaux, pour garantir la fraîcheur. C'est un combat permanent. Il mentionne d'ailleurs qu'il travaille avec une ferme florale bio locale, à Veillac, ce qui est un signe positif.
Mais ce n'est pas suffisant pour tout.
Non. Pour certaines fleurs incontournables, comme les roses, ils dépendent encore beaucoup des importations qui viennent de loin. Kenya, Équateur, Colombie. Parce qu'il n'y a pas assez de production locale, ou qu'elle n'est pas compétitive en termes de prix. C'est un vrai dilemme.
Et la concurrence ?
La concurrence est rude, oui. Celle de la grande distribution, d'Internet. Et puis, il faut suivre les modes. Hein. Christophe Beck s'amuse de voir revenir en force le philodendron, cette plante d'intérieur que tout le monde trouvait complètement ringarde il y a quelques années.
Malgré toutes ces difficultés, on sent qu'ils sont passionnés, non?
Ah ça oui, indéniablement. La passion de la fleur elle-même, le plaisir du contact avec les clients, la satisfaction de créer de belles choses, d'accompagner les gens dans les moments importants de leur vie, les joyeux comme les tristes. Et puis, il y a la fierté de la transmission. Christophe a repris après son père, Jean-Louis, et maintenant c'est sa belle-fille, Roxane, qui travaille avec lui au magasin. C'est une belle histoire de famille, de persévérance et d'amour du métier.
C'est un parcours vraiment riche que nous a fait faire ce bulletin. On est parti des petits messages codés, des cartes postales de la belle époque, on a croisé des botanistes incroyablement savants, on a admiré la flore sauvage de l'Aveyron sur les photos des cartes modernes, on a redécouvert tous les usages parfois surprenants des plantes, on a pu apprécier la finesse d'une artiste comme Katharina Klein et on a fini dans l'arrière-boutique d'un fleuriste passionné à Rodez.
Oui, et ce qui est vraiment remarquable, je trouve, c'est de voir à quel point les fleurs, finalement, elles tissent des liens. Des liens à travers le temps, entre la science, l'art, l'économie et nos vies personnelles, nos émotions. Elles sont tellement plus que de simples décorations. Elles sont chargées de sens, de savoir, de mémoire. Elles nous relient entre nous et elles nous relient aussi très fort à un lieu, à un territoire, à sa nature, à ses traditions. Et justement, cette question du sourcing, de l'origine des fleurs qu'évoque la famille Beck, si on la met en parallèle avec l'émergence de ces fermes florales locales et bio, comme celle de Vella qu'il cite, ça ouvre une réflexion pour l'avenir, je crois. On sait que le marché mondial de la fleur coupée est souvent critiqué pour son impact sur l'environnement, le transport, les pesticides, l'eau et parfois sur les conditions sociales. Alors, on peut se demander, est-ce qu'on est en train d'assister ou est-ce qu'on pourrait voir émerger un mouvement de fond vers une fleur plus locale, plus de saison, plus respectueuse de l'environnement? Et si c'était le cas, est-ce que ça pourrait changer non seulement le métier de fleuriste, mais aussi nos propres habitudes, nos attentes? Est-ce que ça pourrait nous réapprendre peut-être à apprécier la beauté de ce qui pousse près de chez nous au bon moment de l'année? C'est une piste intéressante pour repenser notre rapport aux fleurs et à la nature en général.